Alors bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. Ce soir, la BPI est heureuse de vous accueillir pour un nouveau cycle de rencontres, hashtag controverse. Donc des rencontres un peu particulières pour ceux qui sont habitués à la programmation culturelle de la BPI, puisque ce cycle de rencontres va vous proposer de débattre sur des sujets liés à l'actualité du monde numérique et de voter pour ou contre des idées reçues. Donc ce soir, tout doit être ludique, anatomie d'une idée reçue. Vous pourrez voter de deux façons. D'une part, avec les cartons qu'on vous a remis donc, à l'entrée, carton bleu pour, carton rouge contre cette idée reçue. D'autre part, derrière moi, vous voyez sur le projeté un dispositif, donc en partenariat avec l'IRI. C'est le dispositif Polémique Tweet, donc qui vous permet, avec le mot dièse, mot dièse controverse 01, de voter également pour ou contre avec la syntaxe qui est derrière, plus plus, moins moins, égal égal. Et ça vous permet aussi de poser des questions avec ce dispositif sur Twitter. Donc ce cycle a été réalisé en partenariat avec l'atelier des médias RFI et je laisse la parole à Ziad Malouf qui va vous présenter la soirée et les intervenants. Merci, bonne soirée.
Bonsoir, bonsoir. Vous pouvez applaudir hein, je pense. C'est pas... ouais. J'ai préparé un petit texte d'introduction mais j'ai été frappé en arrivant par l'atmosphère que donnaient les tables de ping-pong dans le centre Georges Pompidou. Et je trouvais que c'était une très belle introduction à cette soirée. Ça détend tout de suite. On sent qu'il y a quelque chose de gai. C'est donc, vous l'avez compris, la première édition de l'événement controverse. Donc pour ceux qui s'expriment sur Twitter ou qui tweeteraient pendant l'événement, c'est donc dièse controverse avec un S ou controverse 01. C'est un événement qui succède au cycle culture numérique. L'équipe de la BPI a souhaité revisiter la forme des rencontres qu'elle organise chaque trimestre autour de l'évolution de notre monde, de l'évolution par rapport à l'impact du numérique notamment sur nos vies, la revisiter pour proposer une soirée de débat moins conventionnelle et plus ludique. C'est donc en toute logique que controverse numéro 1 se pose la question de la part du jeu dans notre quotidien. Il y a quelques années, le mot gamification, ludification était très à la mode dans l'univers du numérique. Tout devait avoir une composante compétitive, distrayante, drôle, légère, colorée. Le concept est un petit peu passé de mode, mais son esprit est encore très présent. Un smiley, un pouce vers le haut, un compteur de partage, d'amis, de fans, des jeux informatifs, des jeux sérieux, des jeux de team building, des jeux urbains. Notre environnement est imprégné de culture ludique. Le jeu est-il fruit d'un monde de plus en plus vivable, léger, convivial? Est-il au contraire une manière de faire avaler un quotidien de moins en moins ragoûtant? Est-ce de la poésie, de l'égarement, de la philosophie, de la naïveté? Si tout se passe bien, nous devrions d'ici 1h20, 1h30 avoir quelques éléments de réponse à ces questions et à d'autres. Notre soirée est réglée comme une horloge car il n'y a rien de pire que le jeu dans le jeu. Je vais tout de suite passer la parole à Guillaume Ouattara qui va aller s'installer. Guillaume est étudiant à l'Université de Technologie de Compiègne. Il est finaliste du concours Fleur d'éloquence de Sorbonne Université. C'est un concours qui est organisé par Juliette Dross et Jean-Baptiste Guignard qui est dans la salle. Guillaume va introduire à sa manière notre controverse avec éloquence. Ce sera ensuite à vous de vous exprimer par le vote, donc vous avez bien compris, vous avez des cartons ou sur Twitter. Puis nos deux orateurs vont prendre la parole, il s'agit de Rémi Sussan qui est journaliste et Aurélien Fouillet qui est sociologue. Ils vont exposer leur point de vue pendant une dizaine de minutes chacun. Après le débat, ce sera après l'exposé des points de vue de chacun qui sont bien entendu divergents, ce sera un débat avec vous pendant une vingtaine de minutes et on pourra conclure de différentes manières. Guillaume, installe-toi, tu vas là-bas ? Ouais ? Où tu veux ? Ouais, c'est pas mal.
Je vais plutôt aller là-bas.
Tu vas plutôt aller ici, ok.
Bien, bonjour. Il y a quelques semaines, j'ai pris une grande décision. Bon. Je vous l'accorde, les phrases qui commencent par « j'ai pris une grande décision » sont souvent annonciatrices de grandes catastrophes. À l'image du patron d'une grande entreprise s'adressant à son plus fidèle collaborateur, dis-moi Didier, j'ai regardé Capital hier soir à la télé et j'ai pris une grande décision. Tu sais quoi, on va tout délocaliser en Chine. C'est génial, non? Bon, dans mon cas, c'était une décision certes rapide, mais réfléchie. Alors, au détour d'un repas, je l'ai annoncé à ma mère. « Maman, ai-je dit, j'ai décidé de ne plus sortir de la maison. » Elle m'a regardé, a poussé un petit sourire mi-amusé, mi-agacé, et m'a dit « Bon, passe-moi le sel et arrête de raconter des conneries, parce que là... » Je ne me suis pas démonté pour autant. Je sais que les grands hommes ont souvent dû faire face à l'incompréhension de leur entourage. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Non, mais tout cela est bien sérieux. Je quitte ce monde fade pour rejoindre des univers virtuels. » Elle m'a regardé, cette fois apeurée, et m'a demandé « On t'a encore volé ton goûter ?» Je lui ai répondu « Non, enfin si, mais là n'est pas la question. » Mais c'est que ma vie m'ennuie, maman. Trop de monotonie. Le monde me brise par sa bêtise. J'ai beau respirer, je me sens mort, sans aucun oxymore. Métro, boulot, dodo, et après. Quid de la folie, quid de l'envie, quid de l'évasion. Alors j'arrête, je dis stop et c'est tout net. Je vais vivre autrement, loin des faux-semblants et de la routine. J'ai dans ma chambre une fenêtre sur le monde. Je peux devenir qui je veux, accomplir des actes grands sur mon PC. Tenez, si je veux devenir pilote de ligne, j'ouvre Flight Simulator et je peux parcourir les paysages du monde entier. Alors que si je voulais devenir pilote de vie dans la vie réelle, ça serait trop tard. Et puis tu sais, maman, j'ai eu beau envoyer mon CV dans les plus grands cabarets, personne ne veut m'engager. Il paraît que je ne sais pas danser. Alors que sur Maui, un petit coup de Just Dance et c'est parti. Pas de complexe, je suis qui je veux. La société s'empare de plus en plus du jeu, maman. Les Serious Games nous apprennent à faire notre déclaration d'impôt. Si j'ai une question à poser au service client de la poste, je m'adresse à un avatar qui répond au doux nom de Lisa. Et inversement, notre société est de mieux en mieux représentée dans les jeux. Alors, maman, je franchis le cap. Je pars. Je prends le large et je décide que ma vie sera bien plus belle face à mes ordis. Alors, je m'attendais à des encouragements, des larmes de joie, des applaudissements. Mais au lieu de ça, elle m'a regardé et m'a répondu « C'est bien beau tout ça, mais concrètement, si je te fous à la porte, comment tu comptes faire pour passer le reste de ta vie dans ta chambre ?» Game over, la partie était finie. Mais pour autant, je vous en prie, de cette litanie, ne jetez pas tout à la poubelle. Car j'affirme, ici, aujourd'hui, devant vous, que tout, absolument tout, doit être ludique. Il n'y a pas un seul secteur de notre société qui ne se soit gamifié. Entendez par là, qui n'ait vu sournoisement l'apparition du jeu, du ludique dans son mode de fonctionnement. À l'école, par exemple, pour apprendre les tables de multiplication, il existe un jeu où l'on fait naviguer un petit personnage sur son skateboard à travers les chiffres, les nombres et les multiplications. Les militaires, avant de partir en mission, reçoivent tous une formation au premier secours, dispensée entre autres via un jeu reprenant le code des GTA et autres Counter-Strike, à la différence près que le but cette fois n'est pas de tuer, mais de sauver. Si vous représentez aujourd'hui une entreprise et que vous voulez vous lancer dans une campagne de marketing, oubliez les encarts publicitaires onéreux, les hommes sandwich dispersés dans la rue dont on ne sait vraiment pas à quoi ils servent. Optez plutôt pour un petit jeu vidéo que vous placerez habilement sur les réseaux sociaux. Quiz, jeux concours avec tirage au sort, voire même monde virtuel construit de toutes pièces, vous n'avez que l'embarras du choix pour faire parler de vous. Moderne. Il faut être absolument moderne, disait en son temps Arthur Rimbaud dans son poème « Adieu ». Eh bien aujourd'hui, l'adage serait plutôt ludique. Il faut être absolument ludique. Divertir ou périr, voilà le maître mot de notre société. Aujourd'hui, si vous voulez devenir une célébrité, il ne sert plus à rien de faire de longues études et d'écrire des traités. Vous serez zappé, déconsidéré, non ? Faites plutôt de la télé-réalité, mettez-vous en scène, grossissez le trait, devenez un personnage, une fiction, jouez de vous. Non mais allô quoi, vous deviendrez célèbre en moins de temps qu'il n'en faut pour finir une bouteille de shampoing. Pas mal, non? Alors faut-il se réjouir de cette omniprésence du jeu? Cette surexposition permanente au contenu ludique ne finirait-elle pas par nous faire perdre notre âme, notre essence, notre capacité à ruminer? D'un jeu à l'autre, d'une vidéo LOL à un article buzz divertissant, on se perd, on se noie, mais au fait, on, c'est qui ? Que devient notre identité ballottée dans ce torrent du numérique ? L'on ne vend plus aujourd'hui son âme au diable, non, ça fait belle lurette qu'il a foutu le camp. On la vend plutôt aux programmeurs, aux multinationales. Car le revers de la médaille, c'est qu'à leurs yeux, vous êtes déshumanisés. Vous ne devenez plus qu'un personnage, qu'un pion sur l'échiquier de leur profit. Ne vous y trompez pas, le ludique ne cherche pas tant à vous divertir, mais plutôt à vous amadouer, à vous masser le cerveau. À TF1, expliqua un jour Patrick Lelay, alors PDG de la chaîne, ce que l'on vend à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible. Pour autant, rassurez-vous, tout n'est pas sombre dans ce tableau du ludique. Et le dispositif de ce soir en est bien la preuve. On peut être léger et sérieux à la fois, joueur et penseur. Alors, sortez vos tablettes, faites place nette, préparez vos tweets et longue vie à la controverse ludique.
Bravo. Alors, tu as dépassé largement le temps qui t'était imparti, mais vu la préparation et vu toutes les informations que tu as partagées dans ton discours d'éloquence, c'était utile. On va passer, alors c'est la première controverse, on découvre en même temps que vous, on va passer à la partie du vote. Je vous ai passé le micro parce que je ne sais pas comment formuler la question à laquelle on doit voter. Est-ce qu'on la formule tout simplement en disant « tout doit être ludique, oui ou non » ou est-ce que ça vous semble, messieurs, trop vague ? Non ? Puisque vous allez prendre la parole.
Si on doit répondre par oui ou par non, il faut de toute façon une question fermée.
Ouais.
Après, on verra dans le débat et dans la controverse.
On va la poser comme ça. Alors, tout doit être ludique.
On formulera la question après le débat. Ce qui
peut-être... D'accord. Alors, je vous vois un petit peu. Est-ce que tout le monde a ses papiers ? On va essayer de voter dans le monde physique, plus que dans le monde virtuel, puisqu'on a des yeux devant nous. Il y a quand même des gens qui suivent Twitter. On va commencer par le oui. Donc, tout doit être ludique, oui. Ok, 1, 2, donc oui c'est le bleu effectivement, 2, 3, on va peut-être les lever tous en même temps, vous les gardez levés, donc, non, juste les oui, ah oui, bah oui c'est vrai, c'est logique puisqu'ils n'ont pas la même couleur, on peut, donc il y a, bon, et les rouges c'est non, on peut les lever tous en même temps, on va voir si c'est plus rouge, voilà. Donc non, clairement, très très clairement, à je dirais 90 voire 95%, c'est, donc rouge c'est non. Donc tout ne doit pas être ludique, c'est ça ? Ok, nous avons procédé au vote, c'est bon. C'est Rémi Sussan qui va prendre la parole en premier. Va t'installer Rémi. Donc tu es spécialiste de cyberculture, de culture cyber, on peut dire, journaliste. Tu as beaucoup écrit sur le jeu et tu as dit notamment « Dans un monde à venir dominé par l'esprit ludique, va s'imposer la nécessité d'un nouvel alphabétisme, savoir créer ses propres jeux. »
Oui, j'ai commis ça, oui. Donc effectivement, vous le devinez à la citation, je ne suis pas du tout un ennemi du jeu. À la question « tout doit être ludique », moi j'aimerais bien que tout soit ludique parce que je suis un joueur, je suis même un gamer par certains côtés, c'est-à-dire je peux passer facilement. Je pense que hier j'ai été 6 heures sur le jeu Civilization 5 et je n'ai pas vu le temps passer. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement je n'ai absolument aucune a priori contre le jeu. Et je vais reprendre la question dans un sens inverse, c'est-à-dire que moi ma question c'est est-ce que finalement le monde sérieux ne corrompt pas le jeu ? C'est-à-dire, est-ce que finalement l'esprit du jeu peut s'acoquiner avec un certain nombre de phénomènes qui appartiennent au monde sérieux ? Alors effectivement, tout à l'heure, tu as parlé de la gamification, de la ludification, qui était un concept qui a perdu un peu, qui n'est plus trop à la mode aujourd'hui, et je pense pouvoir expliquer pourquoi. Sur quoi était basée la ludification ? Ça partait du principe qu'effectivement tout le monde aimait jouer, donc on va commencer à intégrer du jeu à toute chose. Et il y avait un terme qui était constant chez les prophètes de cette ludification, c'était le terme « mécanique du jeu ». C'est-à-dire, en gros, l'idée de base, c'est qu'un jeu, c'est un truc très simple, hein. Tout ce qu'il faut, c'est que vous gagniez des trucs, grosso modo. Bon, c'est basé sur un peu certaines théories de neurosciences qui disent qu'à chaque fois que vous gagnez quelque chose, vous avez un petit shoot de dopamine dans votre cerveau qui est très agréable, et donc vous en voulez encore plus. Donc, on va prendre des mécaniques du jeu. Alors, c'est quoi des mécaniques du jeu ? C'est simplement, vous faites n'importe quoi, et en échange, on vous donne un badge, un point supplémentaire, etc. Vous avez toute une série comme ça de sites web, de systèmes qui sont basés sur cette idée de gagner des points. Alors effectivement, le problème, c'est est-ce que le jeu, c'est purement mécanique et jusqu'où on peut aller dans ce domaine-là ? Il y a un des prophètes de la ludification qui s'appelle Jess Shell qui dit, par exemple, dans l'avenir, quand vous vous brosserez les dents, si vous brossez assez longtemps, vous allez gagner 2 points. Et si vous ne les brossez pas assez longtemps, vous perdez des points. Donc effectivement, on en arrive à un système qui n'est absolument pas ludique, qui est carrément un système qui est coercitif, finalement, et qui n'a pas grand-chose à voir avec un jeu. Vous avez aussi une grande vogue qui est celle du jeu sérieux, l'idée est noble, c'est-à-dire qu'effectivement, puisque tout le monde joue, pourquoi ne pas en profiter pour se former, pour apprendre, pour se conscientiser à certains problèmes, voire pour effectivement se former professionnellement. Le gros problème du jeu sérieux, c'est qu'il est pris entre le sérieux de l'entreprise et le monde du jeu, ce qui fait que la plupart des jeux sérieux ne sont pas des jeux du tout. Ce sont des espèces de simulations profondément ennuyeuses pour la plupart, mais surtout, en dehors même de la nature même de ces jeux sérieux, le gros problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous êtes obligé de jouer à un jeu ? Ça n'est plus du tout le jeu. Si votre patron vous dit « vous allez jouer à un jeu sérieux pour vous former professionnellement, sinon la porte est dehors », effectivement, est-ce que vous êtes encore dans une situation de jeu ? Je reprends l'exemple des jeux pour enfants. Je me souviens de la série Adibou qui était très mignonne, par exemple, où on apprenait à lire, à écrire, à compter avec les jeux Adibou, mais en réalité, les mômes se rendaient très vite compte que c'était un moyen de faire passer la pilule de l'apprentissage scolaire, et ils arrivaient à hacker le jeu, comme on dit, en gardant juste la partie distrayante et en évitant de rentrer dans les programmes scolaires. Alors, effectivement, le problème, il y a un historien du jeu assez connu qui, dans les années 30, qui s'appelle John Huizinga, avait émis ce qu'on appelle l'hypothèse du cercle magique. Le cercle magique, c'est quoi ? C'est une espèce de cercle magique, justement, c'est-à-dire à peu près inexplicable, à l'intérieur duquel vous êtes à l'intérieur d'un jeu, et si vous en sortez, vous n'êtes plus dans le jeu. Et il y a une frontière entre le monde du jeu et le monde du sérieux. Et elle est très difficile à définir, cette frontière. Une chose est à peu près sûre, c'est que ça ne consiste pas à simplement gagner des trucs. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un jeu, comme Guillaume le disait tout à l'heure, et c'est vrai, on devient quelqu'un d'autre, on est dans un autre monde, on explore quelque chose. Donc effectivement, ça n'est pas simplement gagner qui compte. Alors quelle est la relation finalement entre le jeu et le sérieux ? Moi je dirais que ce qui est intéressant, c'est que le jeu est plus sérieux que le sérieux, en fait, et que c'est le jeu qui forme le sérieux. Je vais vous donner un simple exemple qui sont les jeux de guerre. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez les échecs et le go. Les échecs et le go ne sont pas des jeux pour apprendre à combattre sur le terrain. Ce sont des formes très abstraites, ce sont des univers virtuels, même s'ils sont simplement faits à partir de pièces de bois. Et pourtant, ce sont ces jeux qui ont informé les stratèges, qui se sont inspirés Napoléon du jeu d'échecs, Mao, dit-on, du jeu de go, pour élaborer une stratégie de jeu, donc une stratégie de monde réel, je dirais. Donc en fait, le jeu informe le monde réel, il est au-dessus du monde réel, et je pense qu'il est très important, effectivement, de garder ce côté, j'allais dire presque sacré du jeu. N'oubliez pas que le jeu, à l'origine, est souvent très très lié à d'anciennes religions ou à d'anciennes pratiques magiques, et effectivement, quand vous entrez dans le monde du jeu, vous entrez dans un autre monde. Et à partir de là, effectivement, c'est le monde réel qui devient un moyen d'appliquer les principes du jeu et non l'inverse. Donc je pense qu'il est très important de garder cette pureté du jeu parce qu'effectivement, si vous perdez la pureté du jeu, si vous sortez du cercle magique, vous savez, dans les grimoires, c'est connu, si jamais vous sortez du cercle magique au moment où vous évoquez un démon, vous allez vous faire dévorer tout cru. Il ne faut jamais sortir d'un cercle magique. Donc effectivement, je pense qu'il est important de ne pas sortir du cercle magique.
Tu as encore quelques minutes. Donc, si on doit résumer l'idée, c'est vraiment que le sérieux corrompt le jeu. C'est ça ?
Le sérieux corrompt le jeu, c'est-à-dire qu'on essaye de donner des buts sérieux à un jeu, alors qu'effectivement, ça n'est pas le cas. On peut être très sérieux dans le jeu. Un joueur de poker qui perd toute sa fortune est très sérieux. Il risque, on peut même risquer sa vie dans les sports extrêmes, etc. Mais effectivement, c'est le jeu qui détermine le risque. Ce n'est pas le monde sérieux qui le détermine.
Et c'est ça qui, pour toi, explique que la gamification, donc cette période qu'on voit encore aujourd'hui, hein, parce que les applications qui nous donnent des points pullulent, on en a tous les jours, on en ajoute tous les jours des nouvelles, etc. Mais c'est ça qui explique que ça n'est plus tellement à la mode et que c'est devenu...
Je pense que ça n'a pas intéressé les gens du tout. Par contre, ceci dit, il y a des activités qui sont considérées comme tout à fait sérieuses et qui sont des jeux pour les gens qui y jouent. Je pense notamment à la programmation. Un programmeur souvent s'amuse en programmant du code informatique, mais ça n'est pas inscrit dans une catégorie de jeu sérieux, etc. C'est l'activité elle-même qui est ludique.
Et quand un gamer comme toi voit arriver cette mode des badges, cette mode de la gratification permanente, du concours aussi entre les individus en permanence, comment est-ce qu'il vit ça? Est-ce que c'est quelque chose qui l'intéresse?
Quand j'ai découvert ça, je me suis dit pourquoi pas, effectivement. Hein, c'est-à-dire que j'étais pas du tout... Mais c'est effectivement l'exagération de ce système qui est inadmissible. C'est-à-dire qu'effectivement, on fait passer pour du jeu des choses qui ne sont absolument pas ludiques. Et finalement, je pense que les gens s'en fichent un peu de gagner des badges ou de gagner des points, sauf si, bien sûr, ce sont des coupons de réduction. Mais ça, c'est un autre problème.
Merci Rémi, merci. Aurélien Fouillet, tu peux aller t'installer. Donc, tu es auteur de ce livre que j'ai apporté qui s'appelle L'Empire ludique, qui est édité chez François Bourin. C'est un livre, tu le dis dans la propos, contre la morale et contre la niaiserie. Et on peut lire cette phrase dans la propos toujours. La société qui joue est une société qui apprend à mourir et devient une société de philosophes. Toi, tu es le pour.
Oui, moi je suis l'avocat du diable, vu les résultats du premier sondage. J'espère faire tourner l'opinion. Quand on dit tout doit être ludique, on suppose que ce n'est pas déjà le cas. Et en fait, on suppose que très justement, l'organisation de notre société se fait sur autre chose que sur le jeu. Si je fais une petite rétrospective, c'est l'idée simple que nos sociétés sont organisées autour du travail. Et que donc le centre de la vie, c'est le travail. Le jeu, ça n'est pas sérieux, justement parce que c'est de repousser en quelque sorte dans la sphère du loisir. Il y a un phénomène, ou plutôt une structuration de notre temporalité qui montre bien ça, c'est les 3-8. C'est 8 heures de travail, 8 heures de loisir, 8 heures de repos. Mais dans ce contexte-là, en fait, le jeu, qui se retrouve éjecté dans la sphère du loisir, ne sert qu'à une chose, c'est reconstituer les forces de production du travailleur pour qu'il retourne travailler. Donc là, de ce point de vue-là, je serais plutôt de l'avis de Rémi, c'est-à-dire que si on considère qu'effectivement ce qui est le centre de nos sociétés, c'est le travail, bah, le sérieux du travail va corrompre, en quelque sorte, le jeu. Mais moi, mon argument, c'est tout l'inverse. C'est justement de dire que nos sociétés ne sont plus organisées autour du travail, ou en tout cas pas au sens traditionnel qu'on a pu donner au mot travail. Je vais prendre quelques exemples. Je ne sais pas si dans la salle il y a des gens qui sont inscrits sur Tinder, cette application de rencontre un peu ludique où on peut matcher, pas matcher les personnes et les profils qui sont là. Il y a bien sûr World of Warcraft. Hein, ce MMORPG dans lequel vous pouvez incarner toutes sortes d'espèces de héros plus divers les uns que les autres. Et il faut bien voir, pour World of Warcraft, il y a un professeur bien plus sérieux qu'un sociologue, qui est un professeur de gestion et qui en plus est américain. Donc vous imaginez le pouvoir de persuasion qu'il peut avoir, qui a écrit un article fort intéressant où il explique pourquoi il préférerait recruter aujourd'hui un chef de guilde de World of Warcraft. Donc quelqu'un qui s'occupe de gérer une équipe de plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers de joueurs, plutôt que quelqu'un qui aurait fait un MBA, donc un Master of Business Administration, à l'université d'Harvard. Donc encore un type très sérieux. Et ce qui explique très bien donc ce professeur américain qui s'appelle John Silibrone, c'est que finalement les compétences qu'on acquiert aujourd'hui dans des jeux tels que World of Warcraft sont des compétences qui sont beaucoup plus en correspondance, en congruence, en quelque sorte, avec la façon dont nos sociétés, dont notre vie en société s'organise et bien évidemment la façon dont cette organisation va impacter ensuite nos modes de travail et nos façons de collaborer. Hein, on parle beaucoup du 2.0, de l'horizontalité, de toutes ces choses-là. Bah, finalement, c'est un peu mettre du ludique dans l'espace de travail. Alors d'autres exemples, moi ça fait quelques temps maintenant que je fais des statistiques sauvages dans le métro. J'aime bien faire des statistiques sauvages, parce que je trouve d'abord que c'est assez sauvage les statistiques en soi. Mais c'est une expérience que vous pouvez faire tous ici présents. Comptez le nombre de gens qui jouent sur leur téléphone portable dans le métro juste autour de vous. Hein, moi je fais ça depuis presque un an maintenant et je me rends compte qu'il y a toujours entre 4 et 7 personnes dans mon environnement immédiat, hein, que je pourrais éventuellement toucher du bras, qui jouent à Candy Crush Saga, à 2048 ou à je ne sais quel autre jeu sur son portable. Et ce qui est amusant, c'est d'essayer de projeter ça. C'est-à-dire, s'ils sont 6 autour de moi, encore une fois, c'est des statistiques sauvages, hein, entendons-nous bien. Mais multiplier ça par le nombre de wagons dans le métro, puis par le nombre de rames de métro parisiens, puis par le nombre de bus, parce que dans les bus, c'est à peu près la même chose, par le nombre de TGV, de salles d'attente, etc., etc. Bref, à chaque fois qu'on a un temps mort, qu'est-ce qu'on fait ? On joue. Alors, si vous m'avez bien compris, moi, mon idée, c'est qu'effectivement, la question n'est pas tant « tout doit-il être ludique ?» Tout est déjà ludique et il y a une expression que j'aime bien, que je reprends à un américaniste spécialiste des Aztèques, qui dit « le jeu n'a plus d'extérieur ». Dans nos sociétés, le jeu n'a plus d'extérieur. Et donc c'est aussi d'ailleurs difficile de le définir. Hein. Effectivement, est-ce que le jeu c'est un dispositif ? Est-ce que c'est une mécanique ? Est-ce que c'est un état d'esprit comme les développeurs dont parlait Rémi tout à l'heure ? Bref, ça prend quelque chose de tout à fait polymorphe et peut-être aussi un peu pervers. Alors, pour comprendre finalement pourquoi le jeu est au cœur de nos sociétés aujourd'hui, pour moi une angoisse, en quelque sorte, sociale, qui est porteuse de cet esprit du jeu comme réponse ou comme contrepoint, c'est l'ennui. C'est la question de l'ennui. Nos sociétés, en fait, elles nous ont promis beaucoup de choses. Elles nous ont promis l'émancipation, elles nous ont promis le progrès, elles nous ont promis l'amélioration de nos conditions de vie. Et c'est quelque chose qui a été vrai pendant au moins 2 ou 3 siècles. Moi, je prends souvent l'exemple de mon grand-père qui est né en 1929. Il a vu à l'arrivée de l'eau courante, sa mère a dit non, ne le mettez pas dans la cuisine, dans la cour, ça ira très bien. Ensuite, quand une voiture passait dans son village, sa mère lui disait mais vite, vite, cours, va voir, il y a une voiture qui passe. Il a vu ensuite le téléphone, la télévision, etc. Donc il y a eu un vrai progrès technique, un vrai progrès médical, social, culturel, tout ce qu'on voudra. Mais ce progrès-là, il amène avec lui une forme d'uniformisation. Il amène la culture de masse. Et donc, cette culture de masse, elle va produire une forme d'ennui. C'est-à-dire qu'on va évacuer tout ce qui est de l'ordre, justement, de l'individualité, de l'inattendu. Et un des personnages qui symbolise bien ça, c'est Emma Bovary. Emma Bovary, elle rêve que d'une chose, c'est de sortir de son milieu social, de s'émanciper, en quelque sorte. Et pour ça, elle va se marier avec Charles Bovary, qui est médecin et en qui elle place tous ses espoirs. Malheureusement, Charles Bovary est un loser et donc ça ne va pas bien marcher. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire face à l'ennui finalement de sa vie quotidienne ? Elle va lire des romans et elle va s'inventer une vie. Donc, elle va faire un peu ce que décrivait Rémi, elle va s'inventer un personnage. Elle va se construire, on pourrait dire, une sorte de cercle magique dans lequel tout devient possible. Et donc, moi, mon idée, mon argument, c'est que si tout doit être ludique, ou plutôt si tout est déjà ludique, c'est très justement parce que nos sociétés arrivent à une forme de saturation ou à quelque chose, en tout cas, qui remet en question le lien social lui-même par cet ennui, par cette uniformisation et par ces promesses, en quelque sorte, qui ne sont plus tenues. Et le jeu, c'est l'espace dans lequel on va pouvoir expérimenter de nouvelles façons de vivre ensemble. World of Warcraft, hein, dont je parlais tout à l'heure, Tinder, même Candy Crush Saga, d'une certaine manière, hein, on n'hésite pas à demander des vies à ses camarades. ou des personnages de télé-réalité comme la Cité Guillaume. Moi, j'aime toujours un peu être provoquant comme ça en parlant de Nabila. Pour moi, Nabila, pourtant, j'ai fait des études de philosophie, j'aime les livres papier, je suis plutôt d'une culture classique. Mais Nabila me réjouit. Et pourquoi me réjouit-elle ? Parce qu'elle nous montre qu'un autre monde est possible. Alors, on peut dire, oui, effectivement, c'est vrai, d'accord, mais est-ce qu'on a envie de vivre dans le monde de Nabila ? La question n'est pas là. La question n'est pas, pour l'instant, de savoir si c'est le monde de Nabila qui va advenir. La question qui est d'abord posée, c'est celle de se rendre compte qu'on peut vivre autrement. Et le jeu, cet espace ludique, c'est finalement quelque chose qui, pour moi, se rapproche du carnaval dont parle Michael Bakhtine dans un très beau livre sur l'œuvre de François Rabelais, où il montre comment le carnaval, c'est un espace qui a un début et une fin, dans lequel on va inverser tous les codes sociaux et dans lequel, finalement, la société du Moyen-Âge va prendre conscience qu'une autre société est possible et va ensuite, en quelque sorte, faire émerger la Renaissance. Et finalement, le jeu, si tout doit être ludique aujourd'hui, et si tout est ludique aujourd'hui, c'est justement parce que le jeu, comme le rappelait Rémi, c'est quelque chose qui fait culture. C'est quelque chose qui fait le sérieux de la vie, qui fait le lien social, qui fait l'expérimentation. Et on pourrait dire que c'est une forme d'utopie concrète, ou une, pour reprendre l'expression d'Hakim Bey, une zone d'autonomie temporaire, ou encore un interstice, un pli. Enfin, on pourrait trouver plein d'expressions. Et d'ailleurs, l'exemple que je prenais tout à l'heure de Candy Crush Saga est intéressant à ce propos parce qu'on joue à Candy Crush Saga ou diverses variétés de jeux mobiles quand, justement, on est entre deux moments, quand on est dans un interstice temporel. Et c'est finalement dans ces interstices qu'on va, encore une fois, expérimenter par le jeu de nouvelles façons de réfléchir, de penser, d'apprendre, etc., etc.
Je vais te poser une question quand même, oui. Aurélien. Tu pourrais, toi, une forme d'incarnation de la cohabitation entre le sérieux et le jeu, puisque c'est un peu ton expérience de vie. Tu as décidé d'en faire un travail sociologique extrêmement sérieux. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience de cohabitation ? Comment ça a été perçu, etc., etc.
Pour moi, c'est justement l'idée que le jeu fait culture. Et donc, moi qui suis d'une culture classique, typiquement, je suis toujours fasciné par South Park, qui pour moi sont finalement les vrais sociologues du XXIe siècle. C'est eux qui ont compris beaucoup de mécanismes, et notamment il y a un épisode célèbre qui s'appelle « Make Love, Not Warcraft », sur justement World of Warcraft, et qui montre très bien toutes les mécaniques, tous les enjeux à la fois culturels, sociaux, individuels, de santé aussi, qui sont liés au MMORPG. Donc, pour moi, cette cohabitation, elle se fait justement dans une sorte de va-et-vient entre une culture classique et une forme de pop culture, de réappropriation d'un fond commun qu'on va tordre, twister, hacker, etc.
Et si, du coup, Nabila est annonciatrice d'un monde nouveau avec de nouvelles règles, de nouvelles valeurs, toi, tu es annonciateur d'une nouvelle forme de sociologie également qui s'intéresse peut-être plus au quotidien ou à une forme de quotidien qui était déprécié par le
passé. Sûr que moi, la sociologie, en tout cas que j'essaie de pratiquer, ce n'est ni la sociologie, c'est pas une sociologie du social. C'est-à-dire, c'est pas une sociologie de la pauvreté, c'est pas une sociologie du travail, c'est pas une sociologie qui s'occupe des thèmes traditionnels de la sociologie. Mais par contre, c'est une sociologie justement qui va s'intéresser à ce qui fait société. Et donc le jeu, parmi d'autres exemples, rentre dans le cadre de cette pratique sociologique-là.
Merci.
Merci.
Ouais, je pense qu'on peut t'applaudir. Bravo. Nos deux orateurs sont assis. On est presque exactement dans les temps. Il est 19h36. On a une vingtaine de minutes devant nous pour prendre des questions. Et j'imagine que ça va être utile parce que je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas senti de manière extrêmement forte l'opposition dans les idées. Et du coup, je suis confus par rapport à mon choix. C'est-à-dire que j'étais totalement d'accord avec tout ce qu'a dit Rémi, quasiment, et totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Et du coup, je suis un peu tiraillé. Et j'imagine que c'est pareil pour vous. Donc, on a deux micros ou un micro pour les questions. Ils sont là. On peut les faire circuler. Il vous suffit simplement d'indiquer en levant la main. Voilà. Donc, parfait. Il y a quelqu'un qui a levé la main, monsieur. Merci beaucoup. N'hésitez pas à préparer, à me faire signe si vous souhaitez poser une question. Bonsoir.
Bonsoir. Je suis un peu perplexe parce que moi aussi j'attendais une forte opposition des deux intervenants. Mais je vais essayer de formuler mes questions et mes remarques. Tout d'abord, je voudrais bien, par rapport au premier intervenant, si on peut avoir quelques éléments sur cette notion de cercle magique que j'ai trouvé très intéressante et qui pourrait me permettre de bien approfondir la notion de jeu. Et ma deuxième question, ça serait pour le deuxième intervenant qui a mis d'un côté Nabila et d'un côté Rabelais, et de l'autre côté Rabelais, ça j'ai bien apprécié. Mais je voudrais en fait concentrer ma question sur Candy Crush, qui doit avoir quelques années. Vous avez dit que ça intervenait beaucoup dans les temps morts. Et ma question, ça c'est, mais alors qu'est-ce que faisaient les gens avant ce fameux Candy Crush dans les temps morts ?
Alors, pour n'isoler personne, je propose que quand on fait référence à un jeu, par exemple Candy Crush, ou qu'on précise de quoi il s'agit. Rémi, première question, donc c'était sur le cercle magique.
Alors, je n'ai pas beaucoup plus de précision là-dessus. C'est une hypothèse qui a été mise par Johan Huizinga. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû écrire dans les années 30, puisque je crois qu'il est mort en camp de concentration. Donc, forcément, qui effectivement essaye de définir, c'est dans un livre qui s'appelle Homo Ludens, qui essaye de définir effectivement la caractéristique mystérieuse du jeu. Il a eu aussi une grande influence sur Roger Caillois, qui a ensuite écrit sur l'homme et les jeux. Et effectivement, c'est un peu cette lignée qui considère le jeu comme, comme je disais à la fin, assez proche du sacré. D'ailleurs, tu parlais du carnaval, qui en fait était un descendant des Saturnalia, qui était eux aussi un festival religieux. Donc voilà à peu près ce que je peux vous en dire.
Aurélien,
peut-être un mot sur le cercle magique, pas directement en faisant référence à Huizinga, mais justement sur cette différence entre sacré et profane. Chez Mircea Eliade, donc qui est un historien des religions, le sacré, c'est le lieu à partir duquel le monde profane a une existence, pour le dire simplement. Et finalement, l'idée du cercle magique, c'est un peu ça. C'est-à-dire que dans le cercle magique, on raconte une histoire qui va donner du sens à ce qui est ensuite en dehors du cercle magique. Et quand je disais que le jeu fait culture, et donc cette idée que je reprends à Huizinga, c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire que dans le jeu, on va construire des histoires qui vont donner du sens ensuite à des pratiques, à des valeurs, à des prises de décision, à des comportements, etc. Et alors la deuxième question, c'était sur que faisait-on avant Candy Crush Saga ? Eh bien, on acceptait de s'ennuyer. Tout simplement, c'est tous les textes de Spleen et Idéal de Baudelaire, par exemple. Ou le spleen, qu'est-ce que c'est que le spleen ? C'est accepter qu'on n'ait rien à faire et sombrer peut-être parfois dans une forme de mélancolie, mais accepter qu'on fait des choses pour rien, pour ne rien faire. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une forme d'angoisse, oui, à l'inaction, à la vacuité, mais aussi parce que cette vacuité est porteuse d'un isolement. Et donc on recherche toujours, même dans Candy Crush Saga, à être mis en relation avec les autres.
Question.
Bonjour. C'est pas une question pour un intervenant en particulier. Je vais poser la question comme ça et y répond qui y veut. Ne serait-il pas justement intéressant de voir toute la vie comme un jeu ? Mais le jeu, pour moi, c'est pas un divertissement. Le jeu, c'est une façon de voir les choses. Un jeu, c'est quelque chose qui a ses règles, qui a son objectif. Et donc, voir la vie comme un jeu, ce serait justement reconnaître les règles de la vie, reconnaître l'objectif de la vie. Donc il faudrait que chacun se donne un objectif à la fin. Et donc le moyen d'y parvenir, en respectant les règles, en faisant peut-être les quêtes pour faire référence au RPG, enfin, en faisant les étapes de la vie pour en arriver à la fin. C'est pas une question en fait.
Une réponse quand même.
Y a un roman qui est assez amusant, L'Homme D, que tu dois connaître, de Lee Krienhart, où justement c'est l'histoire d'un psychiatre qui décide de jouer l'intégralité de sa vie au dé. Et donc un moment, par exemple, c'est au début du livre je crois, il dit, il se demande s'il va aller coucher avec sa voisine. Il est marié, il a des enfants, il est tout ça, hein. Il joue ça au dé et voilà, les dés ont décidé pour lui. Et donc il va coucher avec sa voisine et il décide comme ça tout au long de sa vie. Mais du coup, là, il n'y a pas d'objectif. Le seul objectif, c'est le respect des règles, qui est celui de toute décision doit être prise au hasard en fonction des dés.
Alors, justement, on parlait tout à l'heure du lien entre la religion, le jeu, etc. C'est assez intéressant parce qu'il y a des espèces de milieux qui sont à mi-chemin, justement, toujours dans le domaine du cercle magique, entre l'occultisme contemporain et le jeu. Et c'est ce qu'on appelle les magiciens du chaos. Et par exemple, un des exercices des magiciens du chaos consiste à prendre un dé. Si vous avez un 1, vous allez être athée pendant toute la journée. Un 2, vous êtes chrétien fondamentaliste. Un 3, vous êtes bouddhiste, etc. Et puis vous jetez le dé. Et effectivement, selon le dé, selon le nombre que vous obtenez, vous devez penser comme effectivement ce que le dé vous indique. Et effectivement, quelque part, ces gens cherchent à jouer leur vie. Mais de toute façon, le lien... Beaucoup de gens font ça. Vous savez, il y a une catégorie de jeux qui s'appelle les jeux à réalité alternée. Les jeux à réalité alternée, c'est des jeux, vous ne savez souvent même pas au début que c'est un jeu. Vous découvrez un site web qui fait mention d'une conspiration, de quelque chose, et puis vous continuez dedans. Et il y a une spécialiste des jeux qui s'appelle Jen McGonigal qui raconte comment les gens finalement se terminent, ils n'ont pas mangé pendant 3 semaines, ils sont complètement obsédés par leur quête. Et cette quête est dans le monde réel, puisque ça peut être sur le web, sur le téléphone, etc. Donc, c'est ce qu'elle appelle l'effet Pinocchio. Et ce sont des gens qui jouent tellement leur vie dans un jeu qui abolissent la réalité dans le jeu. Et puis il y a quand même un jeu où les gens, j'en parlais tout à l'heure, jouent leur vie, c'est le casino.
En fait, ce à quoi je pensais, c'était, non plutôt, ce que vous disiez, en fait, appliquer les mécanismes du jeu à des choses sérieuses, mais là, vraiment à la vie, un peu dans le sens de la théorie des jeux. Justement, enfin, ne pas voir la vie comme quelque chose de un peu aléatoire dans lequel on se laisse porter, mais vraiment la voir comme un jeu, quelque chose où on prévoit. Quelque chose où on pondère, où on apprend les règles.
C'est, alors, la théorie des jeux, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, c'est une, on l'appelle aussi, je crois, la théorie du choix rationnel. C'est-à-dire que c'est la mise en équation, pour le dire vraiment très brièvement et de façon tout à fait infidèle, les prises de décision et les choix des individus ou des collectivités. Et donc vous voyez bien que dans la façon dont je définis moi-même la théorie des jeux, qu'elle n'a de jeu que le nom. Le jeu a, à mon sens, même les échecs qui sont des jeux, qui est un jeu très rationnel, il y a toujours une part qui dépasse la rationalité. Si on est dans un pur processus rationnel, s'il n'y a pas de créativité, s'il n'y a pas d'imagination, s'il n'y a pas de fiction, c'est difficile de dire que c'est un jeu. Et du coup, la théorie du choix rationnel, c'est plus une théorie économique, ou la théorie des jeux, c'est plus une théorie économique, que véritablement, à mon sens, une façon de faire de sa vie un jeu.
D'ailleurs, pour aller dans le même sens, des expériences ont montré que cette théorie du choix rationnel ne montrait pas du tout comment fonctionnait le cerveau, puisqu'on a fait pas mal d'expériences effectivement sur des jeux qui étaient des jeux extrêmement primaires, qui étaient des jeux de paris. Je parie que ça va être une carte rouge qui va sortir, etc. Je parie 50 centimes ou je perds 50 centimes, c'est une carte noire, etc. Et il s'avère qu'effectivement, les gens ne font pas de choix rationnels. Et pire encore, ceux qui font les choix les plus rationnels sont ceux qui ont des lésions cérébrales. Certaines lésions cérébrales, parce qu'il y en a...
Question. Derrière, monsieur.
Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si les intervenants l'ont fait ou pas encore, parce qu'on a beaucoup parlé de jeux et de ludique, en faisant des liens entre le ludique et l'amusement, en faisant des liens des oppositions entre le jeu et le travail, ou le ludique et le sérieux. Et finalement, on a l'impression que c'est une définition qui est un peu poreuse. Alors, est-ce que peut-être chaque intervenant pourrait circonscrire un peu les limites du jeu ? Est-ce que, par exemple, un joueur de foot, dont c'est le métier de jouer au foot, c'est dans un travail ou c'est encore un jeu ? Pareil pour le joueur de poker. Est-ce qu'un jeu dans lequel il y a des règles, dans lequel on ne s'amuse pas, est-ce que c'est encore un jeu ? Est-ce que nous, en tant que citoyens, par exemple, on obéit à un ensemble de règles, qui est le code civil, la loi ? Si on ne respecte pas la loi, on est hors la loi, comme quand on peut être hors jeu, encore une fois, dans le sport. Donc, qu'est-ce qui fait, si ce n'est les règles et leur obéissance ? Ou l'amusant, voilà. Qu'est-ce qui fait que quelque chose, une activité réglée, organisée, devient un jeu ou pas ?
Rémi ?
Moi, je dirais que c'est l'immersion et l'engagement. Pour reprendre l'exemple du joueur de foot, s'il va à son match comme s'il allait pointer à l'usine, effectivement, il ne joue plus. S'il est totalement absorbé dans son jeu, peu importe qu'il gagne des milliards derrière, effectivement, il est dans le jeu. Je serais presque tenté de dire, si demain il cesse d'être professionnel, jouera-t-il encore au foot ou pas ? C'est peut-être ça qui permet de définir effectivement si pour lui c'est un jeu ou pas. Mais effectivement, je pense qu'il y a le caractère d'obligation qui appartient au monde du sérieux et le caractère de désir de s'immerger. Je parlais des programmeurs, par exemple. Vous pouvez être sur un programme totalement ennuyeux, genre un programme de gestion de compta, et être en même temps complètement fasciné par le code et tout, être complètement immergé dedans. Et je pense que c'est effectivement ce fait de changer de monde quelque part qui détermine le jeu, c'est-à-dire je ne suis plus à côté, le gaz peut être ouvert, etc. Je ne fais pas attention parce que je suis absorbé, et je suis absorbé pas en fonction d'un but, mais parce que l'activité m'absorbe.
Et il y a le choix de jouer, de dire je joue.
Absolument.
Et c'est pour répondre à votre question sur le code civil qui, où là, il s'impose sans qu'on choisisse. On ne peut pas le considérer comme un jeu ou considérer que notre quotidien, puisqu'il a des règles comme des sports, etc.,
peut-être
pourrait être
un jeu.
Certains
avocats le considèrent comme un jeu, c'est possible. Je pense que dans le domaine de l'économie, il y a beaucoup de traders qui considèrent que ce qu'ils font est une forme de jeu, peut-être trop. Ça, c'est une question qui est ouverte. Mais effectivement, si c'est des règles qui vous sont imposées, à mon avis, ça n'est pas un jeu. Sauf si vous y prenez goût.
Aurélien.
Alors, je suis une fois de plus d'accord avec Rémi. C'est terrible. Peut-être j'ajouterais quelque chose, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est que le jeu n'a plus d'extérieur. Donc pour moi, le jeu, il n'est pas en opposition avec le travail. Il est justement, c'est un espace poreux. Et c'est un espace poreux parce que justement il y a cette notion d'immersion, d'engagement, de projection dans une réalité alternative, on pourrait dire. Et cette réalité alternative, elle peut être dans le travail, dans le couple, dans l'économie, dans toutes sortes de choses. Mais du coup, il y a une sorte de curseur comme ça qui peut nous aider un peu à définir ce qui est du jeu, ce qui n'en est pas. C'est d'un côté l'idée de l'aventure. Et ça peut être des toutes petites aventures comme Candy Crush Saga ou des très grandes aventures comme de se pendre par les mains en haut de la plus haute tour de Shanghai juste comme ça pour vivre quelque chose de fort. Donc là, on est dans l'aventure. Et de l'autre côté, c'est la question de l'addiction. C'est-à-dire où justement, on n'est plus en train de participer d'une histoire ou d'une narration ou d'une fiction propre au ludique, mais au contraire, on est dépossédé en quelque sorte de soi par une prise maladive ou en tout cas névrotique liée à des comportements de jeu. Donc le casino, mais pas que le casino. Hein. En Corée, il y a quelques mois de ça, je crois, ou en Chine, enfin je ne sais plus dans quel pays d'Asie, il y a un père qui a laissé son enfant mourir de faim parce qu'il est en train de jouer à un jeu en ligne massivement multijoueur. Donc on voit que dans ce cas-là, on peut légitimement se demander si ce père de famille était véritablement en train de jouer ou au contraire s'il n'était pas plutôt dans une problématique liée à la question de l'addiction.
Merci pour votre question. On va prendre peut-être encore une ou deux questions. Oui, madame.
Bonjour. La question que je me posais, c'est la plupart des jeux dont on a parlé sont des jeux qui exigent quand même d'être concentrés. Et ce que je me demandais, c'est si ce temps de concentration qui est accentué pendant la période de jeu permettait d'être plus concentré le reste du temps ou si c'était le contraire, ou si c'était de la concentration volée pour ce qui était en dehors des périodes de jeu. Parce que ce qu'il a expliqué là, c'est mais pendant qu'on joue, on n'est pas ailleurs. Mais est-ce qu'après, on est, est-ce que ça éduque, est-ce que ça entraîne la concentration, est-ce que ça la développe, est-ce que c'est une musculation la concentration?
Merci pour cette question. Et du coup, on peut peut-être élargir même sur l'apport intellectuel, l'apport du jeu en général sur les individus, si c'est un enrichissement ou si ce qu'ils donnent dans le jeu, ils ne peuvent pas le donner ailleurs, quoi. C'est ça?
Rémi. Je ne sais pas s'il y a eu des exemples spécifiques sur la concentration avant et après un jeu. Ce qu'on sait, c'est que bon, là, c'est le domaine des jeux vidéo plutôt, etc. Mais je pense que ça peut s'appliquer aussi à des jeux de table, etc. C'est que certaines facultés sont augmentées, sont améliorées par des jeux, par différents types de jeux. Par exemple, les fameux jeux de tir à la première personne, où vous amusez à tirer sur tout le monde, etc., augmentent les capacités visio-spatiales, par exemple. Il semblerait. Il y a eu des expériences sur le problème du vieillissement et comment certains jeux pouvaient aider par rapport au vieillissement. On a fait une expérience avec un jeu qui, c'est ce qu'on appelle les jeux de stratégie en temps réel. En fait, ce sont des jeux vidéo où vous devez systématiquement, vous avez un peuple et vous devez en même temps le nourrir, satisfaire ses besoins religieux, l'amuser et en même temps préparer la guerre avec l'adversaire. Et vous devez faire tout ça en même temps. Donc il y a eu des recherches sur les personnes âgées qui ont montré qu'en fait ce type de jeu permettait d'augmenter le passage d'une tâche à une autre. L'un des gros problèmes avec le vieillissement qui se pose, c'est qu'il est plus difficile, non pas de se concentrer sur une même tâche, mais de changer de tâche. Or là, vous devez changer de tâche constamment. Et certaines expériences, alors je mets toujours des guillemets quand je dis certaines expériences, parce qu'il faut les refaire 20 fois avec des échantillons différents et tout pour être sûr. Hein. Les expériences en psychologie, c'est quand même pas de la science exacte, mais certaines expériences laissent penser qu'effectivement, le groupe qui jouait par rapport à un groupe témoin, comme toujours on le fait en psychologie, qui jouait à ces jeux, avait développé, avait protégé plus cette mémoire qui leur permet de passer d'une tâche à une autre.
Aurélie.
Alors, moi, je ne suis pas psychologue, mais du coup, je vais répondre par le point de vue du sociologue. et prendre la question un peu à l'envers, si vous me le permettez. C'est-à-dire qu'il y a une étude américaine qui est sortie l'année dernière qui montre que les gens qui jouent à des jeux vidéo et à des jeux en général sont plus éduqués, plus sociables et plus performants. Donc, ça ne veut pas dire que le jeu, entendons-nous bien, fait que ces personnes-là sont plus éduquées, plus sociables et plus performantes. Mais en tout cas, il y a encore les statistiques, décidément, nous n'en sortirons jamais. Il y a une corrélation entre la pratique ludique et des compétences socioculturelles qui peuvent être plus élevées que la moyenne.
Ce que je me demandais, c'est si le fait de jouer, c'est déjà ne pas avoir peur de se connaître. Donc le fait d'accepter d'être lucide sur soi-même, ce qui permet d'être plus relax dans les relations avec les autres, dans la mesure où on accepte le jugement des autres, et ça peut être plus... Alors, ça peut peut-être expliquer, enfin c'est une hypothèse que je mets, ça peut peut-être expliquer, c'est peut-être un des facteurs pourquoi ces deux choses sont... Une des raisons pour lesquelles...
Que le jeu évite de se connaître, j'imagine que ça
s'applique... permet de se connaître. Le jeu permet,
permet
de se connaître.
De se connaître.
Le jeu
d'accord,
permet
pardon.
De se connaître oui, et les de gens qui acceptent de se découvrir face, en général, quand on joue soit face à une machine, soit avec d'autres personnes, et le fait d'accepter que l'autre puisse vous connaître, c'est déjà accepter le contact social avec les autres, donc avec sa... Avec le risque qu'on court dans toute relation sociale, dans toute exposition sociale.
Merci, madame. Il y a deux questions et on va conclure la série des questions. Allez-y, merci.
Alors, j'aurais une question sur les conditions qui permettent de faire que le jeu soit positif à la fois pour les individus et les sociétés. Et j'ai deux sous-questions. Qui sont comment est-ce que la personne qui fixe les règles est importante pour répondre à cette question, et la question de la frontière entre le jeu et la réalité. Et pour rendre ma question un peu plus claire, je vais prendre un exemple. Les sœurs Brontë se sont ennuyées une bonne partie de leur vie, et au cours de cet ennui, elles ont inventé un monde imaginaire, le monde de Gandalf, et en créant ce monde, elles ont réutilisé tout cet imaginaire pour créer une œuvre littéraire qui est restée dans l'histoire. Et donc, le jeu tel que vous nous le décrivez, qui est un jeu non pas choisi, mais souvent un jeu qui existe, comme World of Warcraft ou Candy Crush qu'on joue dans C'est ton mort, c'est un jeu extrêmement rationalisé. Et c'est un jeu qui n'a pas une frontière définie. Et donc, en quoi c'est un problème pour que le jeu devienne intéressant vraiment pour tout le monde ?
Alors, sur World of Warcraft, pour moi, World of Warcraft, ce n'est pas un jeu d'aventure, en fait. Ce n'est pas un jeu où on remplit des quêtes. Ça, c'est annexe, c'est le prétexte pour lequel on s'inscrit à World of Warcraft. Mais la réalité du jeu World of Warcraft, c'est d'aller voir ses amis, de discuter avec eux. Et l'essentiel du temps qu'on y passe, souvent, c'est du temps de discussion. Et on passe beaucoup de temps à aller tuer tel méchant monstre ou aller chercher tel objet magique. Mais c'est d'abord un vecteur de relations sociales. Et donc pour moi, ce qui fait qu'un jeu est positif ou créateur ou destructeur plutôt, c'est justement qu'il permet ou de créer du lien ou de raconter une histoire commune. Ou à l'inverse, c'est un peu le curseur que je mettais entre l'aventure et l'addiction. C'est-à-dire l'aventure, c'est se lier avec les autres, parfois en prenant des risques, mais pas forcément. Ça peut être juste en se racontant une histoire collective. Et puis de l'autre côté, il y a l'addiction où on va se perdre dans une histoire qui va nous détruire nous-mêmes et éventuellement nous amener à détruire aussi les liens qu'on entretient avec le reste du monde.
Rémi ?
Oui, je suis d'accord. World of Warcraft n'est pas un jeu, à mon avis, rationalisé. Je connais mal World of Warcraft parce que je savais que si je me rentrais là-dedans, je n'en sortirais plus. Donc j'ai effectivement préféré éviter ce genre de choses. Mais effectivement, c'est plutôt l'exploration d'un monde et des gens qui sont autour de vous qui sont centrales. Maintenant, le problème de Candy Crush, que je ne pratique pas, moi je suis plutôt sur Bubble Shooter, mais je crois que ce n'est pas beaucoup plus raffiné. C'est vrai que c'est une question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en retire ? Est-ce que c'est positif ou pas ? Je ne saurais pas quoi répondre.
C'est vrai qu'on y joue. Je ne sais pas si je me trompe, mais ces jeux ne nécessitent pas de réflexion. C'est-à-dire qu'on peut jouer.
Ah, Bubble Shooter quand même, il faut un peu réfléchir. Moi, je ne suis pas d'accord.
Mais on peut jouer à ces jeux en écoutant quelque chose, faisant autre chose.
Oui, oui. Mais effectivement, moi, ce qui me gêne, c'est un peu la question, et c'est toujours la question du jeu sérieux, c'est est-ce qu'il est important de savoir si un jeu est positif ? Je pense qu'effectivement, c'est la personne qui joue qui en retire une positivité, fondamentalement. Je ne crois pas que ça soit ni le concepteur des règles, qui souvent ne sait pas ce qui va advenir de son jeu, finalement, comment il va se développer, comment des stratégies vont se développer. Je pense que l'inventeur du jeu de Go ou des échecs n'avait pas deviné la matière qu'il y aura à l'intérieur. Je pense que c'est vraiment le joueur qui décide si c'est positif ou pas. Et c'est le contexte du joueur qui compte.
Et aussi, une chose importante, c'est qu'on prend des exemples, World of Warcraft, Candy Crush Saga, et on les isole pour expliquer tel ou tel aspect du jeu. Mais à mon avis, justement, Candy Crush Saga, World of Warcraft, Tinder, Gliden, LOL, la Wii, la nouvelle PlayStation, tous ces éléments-là, les jeux de rôle pour les recrutements dans les entreprises, tous ces jeux-là participent d'un écosystème. Donc si on veut comprendre ce qu'est le jeu aujourd'hui, on ne peut pas étudier isolément tel ou tel jeu. Je pense qu'il y a c'est un ensemble de signaux faibles qui viennent nous renseigner, qui viennent nous montrer les symptômes un peu des préoccupations ludiques qu'ont nos sociétés.
Il y avait une question. Oui.
Oui, alors une première question serait, est-ce que vous allez finir par être en désaccord ou pas ? Parce que ça commence à être un peu agaçant. Bon. Une autre, en fait, qui fait lien avec ce qui vient d'être dit, c'est que j'ai remarqué un petit glissement sémantique sympathique, à vrai dire. C'est que depuis le début, vous utilisez ludique non pas pour qualifier le jeu ou l'objet en lui-même, mais pour qualifier l'individu, sa projection ou son immersion. Et donc, en fait, ce qui m'apparaissait, c'est que peut-être ce que vous étiez en train de dire, c'est que le ludique, puisque vous en avez assez peu parlé finalement, du ludique en lui-même, pas ce qui est ludique, mais le ludique en lui-même, c'était une manière d'être à quelque chose, d'être à une activité au fond, mais c'est du côté de l'individu. Donc ma question, comme je suis universitaire et corrélativement chiant, surtout en sciences cog, c'est est-ce que vous accepteriez l'idée qu'au fond, le ludique, c'est un mécanisme de la cognition humaine, en fait, un peu dans l'idée de l'homo ludens, quoi.
D'abord, on est complètement en désaccord. Vous n'avez pas compris.
Il aime la viande à point et je l'aime bleu.
Vraiment, on est au bord vraiment de la dispute physique. Donc,
c'est
on
pour
se
ça
contient,
qu'il
est
mis au milieu.
Voilà. Mais et effectivement, je pense que moi, je n'aurais pas de réponse, hein, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu ça. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est de toute façon apparemment un mécanisme cognitif, puisque de toute façon les enfants jouent, les animaux jouent, hein, c'est quelque chose qui est fondamental pour tous les mammifères. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence quand même entre ce qui est un jeu et ce qui est pensé comme jeu ou pas ? Je pense qu'il y en a une, mais moi je serais bien incapable de la décrire de manière précise. Je crois que Kaiwa justement faisait une différence entre Pedeia et Ludus. C'est-à-dire Pedeia, c'était le jeu d'enfant qui n'a pas de règles, hein, c'est-à-dire effectivement qui est complètement spontané, et Ludus c'est le jeu avec des règles, etc. Mais qu'est-ce qui va vraiment faire la différence ? Là, j'avoue que moi, je crois qu'il y a quelque chose, mais je serais bien incapable de dire quoi.
Aurélien.
Moi, je vais faire mon universitaire chiant en réponse. C'est-à-dire, pour moi, déjà, il faudrait s'entendre sur ce qu'on entend par individu. Pourquoi pour moi, quand je parle des pratiques ludiques d'une personne ou d'un individu, c'est pas l'individu au sens où dont nos sociétés l'ont défini. Donc il faudrait déjà se mettre d'accord là-dessus. Et l'autre point sur c'est pareil, c'est qu'est-ce que c'est que un processus cognitif ? Comment est-ce que vous le définissez ?
Il faudrait 4 colloques, je pense. Mais...
Oui, je pense qu'on pourrait faire un séminaire de 72 ans sur la question, mais ça serait fort intéressant par ailleurs. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Mais oui, j'ai envie de dire évidemment que le jeu est un processus cognitif ou un phénomène cognitif. Mais voilà, après, il faut s'entendre sur comment on définit la cognition pour voir si on n'évacue pas du jeu, notamment toute une fonction de production de sens et de symboles qui ne s'épuise pas dans un processus biologique. Voilà. Donc c'est une question ouverte que nous pourrons résoudre dans un prochain colloque au cours des 72 prochaines années. Nous vous y invitons d'ores et déjà, Ziad, si vous voulez bien animer ce futur colloque.
Avec grand plaisir. Je propose qu'on applaudisse vous, le public, et qu'on applaudisse... Nos deux spécialistes. Margot Torjman s'est installée. Elle fait également partie du groupe qui s'est d'ailleurs immiscé dans les questions. Vous avez peut-être reconnu parfois un ton particulier ou une préparation particulière. Donc Margot a préparé un discours. Donc le groupe Fleur d'éloquence, tu as préparé
une petite conclusion,
voilà, c'est ça. Vas-y
alors. Alors, que vous parliez de gamification, gamification ou gamification, vous l'aurez compris, le monde se gamifie. Qu'on se place du point de vue de celui qui a une finalité à voir de plus en plus d'utilisateurs jouer, ou du point de vue du vécu, du ressenti des gamers, une question, un enjeu sociétal, une machine en route, que l'on peut ou non endiguer, a orienté notre réflexion ce soir. Deux positions ont été défendues. Pour faire simple, d'un côté, la gamification est un moyen de laisser le soin aux individus de s'approprier une tâche plus ludique, divertissante et utile à des fins sérieuses. De l'autre, la gamification pervertit le jeu lui-même et génère des effets nocifs sur l'individu, presque pris au piège. Les opinions se balancent entre scepticisme et défense d'un nouveau pas dans le numérique. Donc d'un côté, le jeu altère le sérieux. La ludification existe bien avant l'ère du jeu vidéo. Avec les bons points en maternelle, par exemple. C'est un système d'évaluation moins rigide, sous une forme de jeu, pour engager les élèves dans une dynamique. L'individu est acteur de sa réalité et s'insère au sein d'une communauté de gamers. Le jeu limite le sérieux pour ses partisans, on réenchante un monde désenchanté par le sérieux et la rationalisation en créant des liens virtuels nouveaux, des communautés autour de nouveaux dispositifs. Par exemple, les nouveaux entretiens d'embauche proposent des jeux de pierre-feuille-ciseaux ou Shifumi pour visualiser la dynamique des individus, leur implication dans des travaux de groupe, mais c'est aussi un moyen simple et ludique de faire connaissance. La ludicisation est un mode de socialisation. On tente de jouer son travail avec des jeux sérieux. On tente de pallier aux contraintes du travail. On peut y voir un mode de coopération dans le travail. On rationalise les liaisons entre objectifs et fins avec pédagogie. On incorpore des mécanismes ludiques pour l'éducation en transposant les mécanismes du jeu à une situation de non-jeu. On fait l'expérience du vivre ensemble avec un nouveau mode d'engagement en suivant une ligne directrice, votre participation. Cette participation entraîne une implication et une appropriation plus rapide des tâches. Vous vous confrontez au fictif avant de vous confronter au réel. On parle aussi de gamification de l'information. À travers les fanfictions, on trouve des posts internet écrits par des fans sur des séries, des films, des jeux. Ils adoptent une attitude ludique, avec comme moteur l'écriture et comme volonté la transmission d'un message d'opinion. C'est une réappropriation ludique de l'écriture amateur. Loin des genres littéraires soutenus, ces écrits interprétatifs laissent voir l'expression citoyenne d'un groupe social de gamers. La gamification se pose ainsi comme un lieu d'expression. Pour ses défenseurs, la gamification n'empêche pas la mise à distance. Se comporter comme, être, comme un fan sans être fanatique, disait Le Guern. La dynamique communautaire permet le sentiment d'appartenance identitaire, l'éloignement des perspectives individualistes, des rapports horizontaux non verticaux, des référents communs. Si c'est souhaitable dans certains aspects, par exemple apprendre l'anglais ou l'allemand, c'est sûrement plus simple sous forme de jeu, voulons-nous que la vie devienne un jeu géant ? Donc d'autre part, le sérieux altère les mécanismes mêmes du jeu. La ludification est critiquée en tant que technique de manipulation, comme un cauchemar dystopique, pervertissant le plaisir de jouer et qui s'avère même être un danger pour l'individu. Est-ce uniquement une stratégie de marketing virale avec un argument commercial pour rendre les salariés plus productifs dans un milieu ludifié ? En effet, cette nouvelle méthode se placerait sous l'hégémonie d'un système néolibéral qui profite de cet engouement. Car le jeu devient alors un prétexte pour l'individu, pour les individus qui sont connectés plus longtemps en produisant un maximum d'informations dans le but de peaufiner le profilage. De nombreux liens sont à faire entre gamification et surveillance. Désormais, cette surveillance ludifiée traverse tous les pans de la vie sociale, comme en témoigne par exemple une majorité de jeux sur Facebook, YouTube ou Google, où l'on peut voir qui joue, à quel moment, à quel niveau du jeu, etc. La gamification utilisée dans le contexte marchand sera en train de transformer l'idée même de jeu. De plus, ses détracteurs y voient une immersion fictionnelle et virtuelle. Le danger, c'est qu'il s'agit d'une fiction de société imaginaire, d'une contre-utopie, qui joue un rôle sur les aspirations des individus, c'est-à-dire les voiles, avec des conceptions utopiques de société idéale, ce qui violente ainsi leur conception du réel. Et puis, le plaisir de jouer réside dans son caractère momentané et ne se globalise pas dans d'autres sphères de la vie sociale. Si le plaisir se trouve dans la rareté, en ludifiant plusieurs sphères de nos vies, trouverons-nous toujours du plaisir ? La question de l'addiction est aussi soulevée. Si certains pensent que la mise à distance est possible, d'autres pensent que l'addiction surplombe l'individu. Ce problème individuel se répercuterait activement sur le collectif, car le jeu vidéo, dans son sens extensif, est un progrès qui fait régresser l'homme. De nouvelles addictions se créent, se diffusent, tel un média de masse. On parle aussi de tensions de persuasion soft. Par exemple, en hypothétisant quelque peu, si vos nouveaux sites de mode préférés vous font participer en tant que personnage qui gagne des points pour la consommation, espérons qu'on garde le contrôle raisonné de cette participation nouvelle et mise en scène. Voilà le point de vue défendu. C'est une nouvelle étape de la numérisation des services. Devons-nous et pouvons-nous réguler ce progrès numérique qui conjugue engagement, engouement, fidélisation, mais aussi déresponsabilisation, atteinte aux libertés individuelles ? Si la machine est en marche, avons-nous toujours notre mot à dire pour la réguler ? Je laisse en suspens ces questions qui, j'espère, n'auront pas clos le débat, mais justement l'auront ouvert.
Rémi demande si c'est écrit en temps réel. Non, non. C'est moi, pour passer le temps, j'écoute beaucoup de podcasts, donc je télécharge des émissions de radio, et en venant... C'est un podcast américain que j'écoute souvent qui s'appelle This American Life. Je ne dis pas ça pour faire prétentieux, hein, mais en fait, le début de l'émission m'a frappé parce que je me suis dit en l'écoutant, tiens, ça a un rapport avec ce soir. L'émission s'intéresse aujourd'hui aux gens qui changent d'avis. Et l'animateur, qui est très intéressant, qui s'appelle Ira Glass, explique immédiatement que c'est très difficile de faire changer d'avis à quelqu'un et qu'en général, quand on le confronte à des avis contraires aux siens, il va plutôt se renforcer dans ses idées que épouser les idées des autres. Et d'ailleurs, il explique que c'est pour ça que quand on fait campagne pour un homme politique, etc., on ne va jamais dans les territoires adverses, on va toujours parler avec les gens qui sont acquis à notre cause pour s'assurer qu'ils vont voter. Et simplement, là où c'est intéressant, c'est que l'émission commence sur une exception qui a été découverte. C'est une campagne qui a été faite par des homosexuels, je crois que c'est en Californie, qui faisaient campagne pour convaincre, dans des zones où on avait voté contre le mariage homosexuel, de l'intérêt du mariage homosexuel et essayer de faire changer d'avis. Et ils se sont rendus compte que énormément de gens, c'est-à-dire 5-10% des gens, changeaient littéralement d'avis. On entend d'ailleurs dans l'émission un enregistrement où on voit quelqu'un qui change d'avis. Et ce qui fait changer d'avis, ce dont on se rend compte, ils font plusieurs expériences, c'est que, fin du partage après ça, c'est qu'en fait, les personnes qui parlent et qui essayent de convaincre sont liées à l'histoire, c'est-à-dire qu'ils font la même chose avec l'avortement. Et à un moment, la dame qui est en train d'essayer de convaincre dit qu'elle a avorté elle-même. Les homosexuels disent « je suis moi-même homosexuel et je souhaite me marier ». Et en fait, ça a fait totalement changer d'avis les gens. Alors, c'était une petite introduction à la partie vote, donc vous allez devoir revoter pour dire si vous aviez changé d'avis. Maintenant que j'ai compris comment ça marche, je peux vous demander de soulever directement tous les papiers, donc soit rouge pour dire vous n'êtes pas convaincu que le jeu a sa place. Non, allez-y, vous pouvez, madame. Oui, donc vous n'êtes pas convaincu que le jeu a sa place partout et donc il ne faut pas tout ludifier ou avoir de la ludification partout. Et bleu pour dire que oui, finalement, à la réflexion, vous êtes plutôt d'accord avec cette idée que dans une société où on considère que le jeu n'est pas au service du travail, mais qu'il est peut-être une fin en soi, eh bien, c'est pas mal que tout soit jeu, quoi. C'est ça ? Ouais. Alors, donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un tout petit peu plus de bleu, mais que, alors que je pense... Ah, quand même, hein, ça vaudrait presque le coup de compter. On compte ? Quelqu'un sait compter Quelqu'un peut nous aider ? Hop, alors, allez, les bleus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Hein. Alors, les rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je ne suis pas bon là. Je ne sais pas.
Il n'y a pas de Redman dans la salle qui pourrait nous
quelqu'un
aider.
Quelqu'un pourrait voir ou pas ? Parce qu'en fait, je ne vois pas tout. Monsieur, vous avez un papier rouge, vous ? Oui ? Oui, c'est ça. Parce que vous. En fait, tenez-les bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, c'est ça. Les rouges ont gagné. Donc, c'est Rémi qui a gagné. Alors, messieurs, vous avez droit à quelques minutes, 2-3 minutes de conclusion chacun. Il y a une chose qui m'a frappé. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir à ça. Et tu as parlé beaucoup d'addiction, Aurélien, du danger de l'addiction. On est d'accord, c'est une forme, enfin, c'est un problème, l'addiction, a priori, dans le jeu. Rémi, tu as mentionné le fait que World of Warcraft ne t'avait pas intéressé parce que tu risquais de plonger dedans par addiction. Et je me suis fait la réflexion, enfin, peut-être par passion pour le jeu, je me suis fait la réflexion et je me suis demandé si finalement on n'était pas dans un monde de plus en plus dangereux par rapport à ça. C'est-à-dire que avant, pour jouer au poker à 2h du matin, il fallait aller à Deauville. Aujourd'hui, il suffit d'allumer son ordinateur et on peut donner l'exemple de toutes sortes de jeux, etc. Et finalement, est-ce que la présence de plus en plus importante du jeu dans notre quotidien, la facilitation qu'est le numérique, n'est pas aussi une forme de danger pour les individus et particulièrement dans un danger d'addiction? Et il y a des jeux qui sont extrêmement addictifs et qui finalement sont à portée de main aujourd'hui. Alors, vous avez le droit de répondre, réagir, conclure sur autre chose. Aurélien.
Moi, je dirais que le problème de l'addiction, ce n'est pas le jeu. L'addiction, c'est un problème de société. Et je crois que c'est Michel Foucault qui disait ça, que les maladies mentales d'une époque nous révèlent un peu les problèmes de l'époque aussi. Et finalement, l'addiction, ça nous révèle, à mon avis, mais vous savez, le sociologue voit du lien social à peu près partout, hein, c'est une forme de déformation professionnelle, que justement, l'addiction nous montre que ce qui manque le plus à nos sociétés, c'est d'être lié à quelque chose, d'être lié aux autres. Et finalement, l'addiction, qu'est-ce que c'est ? C'est se perdre, c'est disparaître au profit de quelque chose qui nous dépasse. Donc, je dirais que le problème dépasse très largement les jeux vidéo ou pas vidéo, d'ailleurs, hein, ou les jeux de casino, les jeux d'argent. Hein. On peut être addict à la cigarette, à la drogue, au sexe, au porno. Il y a toutes sortes d'addictions aujourd'hui. C'est assez incroyable. Il y a tout un catalogue des addictions qui pourraient être faites. Donc, voilà. Et juste une conclusion sur le tout doit être ludique. Hein. Encore une fois, moi, j'insiste là-dessus, sur l'idée que c'est pas que tout doit être ludique, c'est plutôt qu'on est à un moment de société dans lequel un espace de création d'une nouvelle façon de faire société existe Et cet espace prend la forme de pratiques ludiques qui touchent un peu toutes les sphères de la vie quotidienne. Voilà.
Oui, moi, sur le thème de l'addiction, je fais partie plutôt des sceptiques. Bon, bien sûr, il y a des cas extrêmes comme celui que tu citais. Bon, les personnalités, ça sera peut-être un point de désaccord qu'on aura tous les deux. C'est-à-dire que je pense que c'est peut-être plus une affection neurologique que sociale. Mais bon, ça, de toute façon, on n'aura pas la réponse avant très longtemps.
On peut la mettre à la question du colloque. Voilà.
Mais je pense que quelqu'un qui aujourd'hui a vraiment un problème d'addiction avec le jeu aurait eu un problème d'addiction avec la drogue plus tôt. Ou avec l'alcool, ou avec etc. Donc, je pense que la personnalité addictive ne dépend pas tellement de la nature de l'addiction. Bon, pour conclure, comme je disais au début, moi j'aimerais bien que tout soit jeu, mais à condition qu'effectivement ça soit vraiment des jeux. C'est-à-dire qu'on supprime les notes à l'école, qu'on supprime le risque de se faire virer au travail. Et là, je pense qu'effectivement, on pourra faire des jeux sérieux, de bonne qualité, etc.
Merci, on va vous applaudir. Merci à tous d'être venus. Je crois que la prochaine controverse, c'est le 1er juin, c'est ça? Ou c'est pas sûr encore? Oui, et pour l'instant, est-ce que je peux annoncer? C'est encore trop tôt. Donc pour s'informer, c'est sur le site de la BPI. Systématiquement, avant chaque controverse, nous publions donc un événement sur Facebook et l'événement est également relayé sur le site de la BPI. N'hésitez pas, ça serait vraiment sympa à nous faire des retours. Donc vous pouvez simplement, un moyen de faire des retours, c'est tout simplement de tweeter sur controverse 01 ou controverse avec un S dans les deux cas, ce que vous avez pensé, ce qu'on peut faire mieux, etc. Sinon, est-ce qu'il y a une adresse ouais.
Non, tout à fait, non, sur Twitter. Ou alors, il y a une adresse qui était sur le flyer ou sur le site de la BPI. Et j'en profite pour annoncer le thème de la prochaine controverse. Donc, c'est une idée reçue, c'est « Vous pouvez bien m'espionner, je n'ai rien à cacher ». Donc, vous l'aurez reconnu, c'est un débat actuel lié à la loi sur le renseignement qui sera votée lundi. Donc voilà, j'espère que vous viendrez nombreux pour débattre de cette nouvelle idée reçue.
Et j'ajoute que cette loi risque d'être votée massivement par l'Assemblée nationale et que c'est très difficile même d'imaginer quelqu'un qui soit capable de venir la défendre devant un parterre. Donc c'est un paradoxe déjà, c'est-à-dire qu'on est déjà en train de se creuser la tête pour se dire qui pourrait bien venir défendre un projet de loi pareil, etc., alors que nos représentants le votent massivement à l'Assemblée nationale, ce qui, voilà, c'est une règle de jeu peut-être à modifier. Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci à nos invités. Merci à Fleur d'Éloquence. Bravo pour vos discours qui étaient extrêmement bien préparés, qui étaient des très bons éclairages. Merci pour vos questions aussi qui étaient astucieuses. Et merci à tous ceux qui ont participé. Voilà. Et merci à la technique aussi.